Europe 1. 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Dans les jardins du château de Chevening dans le Kent, au sud-est de l'Angleterre, Lady Hester Stanhope chevauche un pur sang en Amazone. Dans les veines de la cavalière coule du sang bleu. Cette jeune lady, née en 1776, est la petite fille de William Pitt et la nièce de William Pitt. William Pitt l'ancien et William Pitt le jeune.
Ah oui, parce que sinon oui. J'étais perdu.
Ça peut pas être le même. Hein. Et en plus d'avoir le même nom, ils ont tous les deux été premiers ministres du roi d'Angleterre, George III. Ce lien de parenté, Esther le tient de sa mère qui décède alors qu'elle n'a que 4 ans. Voilà pour son rang. Son originalité, elle vient sûrement de son père, le comte Stanhope, un lord excentrique aux idées progressistes marqué par la Révolution française qui a renoncé à ses titres de noblesse et refuse de porter la perruque à la cour. C'est un inventeur de génie qui passe tout son temps dans son laboratoire pendant qu'Esther perfectionne son talent de cavalière. Un été, en vacances au port d'Hastings, la petite Esther, qui n'a que 9 ans, aperçoit au loin les côtes françaises. La nuit venue, la voilà qui monte dans une barque et tente de gagner la France à la rame. Elle a déjà soif d'aventure, mais il faut s'armer de patience. Adolescente, Esther quitte le château de Chevening pour rejoindre son oncle adoré, William Pitt le Jeune, dans un austère château fort près de Douvres. Le premier ministre, qui se dévoue entièrement à la cause de son pays, n'a pas d'enfant. Esther est donc comme sa fille, son amie, sa confidente. Elle s'occupe de sa maison et le suit au 10 Downing Street.
Oh, tiens, elle le suit où, Stéphane, exactement?
Au 10 Downing Street.
Oh, 10 Downing Street.
La résidence du Premier ministre.
Yeah.
Lorsque son protecteur meurt en 1806, la vie d'Esther s'écroule. Elle, qui subjuguait tous ceux qu'elle rencontrait, le roi lui-même, et devait refuser maintes avances, se retrouve abandonnée. Grâce à son ascendance, elle hérite d'une pension du Parlement, 1000 livres sterling par an. Ce n'est pas suffisant pour changer de toilette 3 fois par jour. Lady Stanhope se réfugie au Pays de Galles et s'isole dans un cottage. La nouvelle de la mort du général John Moore, dont elle s'était éprise à Londres, la plonge dans la dépression. Alors, quand son frère James s'apprête à rejoindre l'Espagne, c'est décidé, elle partira avec lui. Deux domestiques et un médecin du nom de Charles Marion l'accompagnent. Lady Stanhope ne remettra plus jamais les pieds en Angleterre. Le voyage commence au gré des flots et des sentiments. À Malte, en 1810, elle rencontre Michael Bruce, un jeune homme de 23 ans. Elle en a 35. C'est le coup de foudre. Elle écrit à son père, Crawford Bruce, un riche banquier qui a fait fortune en Inde, pour lui avouer ses sentiments. Si elle l'aime à la folie, elle précise bien qu'elle ne l'épousera pas. Impossible pour elle de conjuguer son envie de liberté aux liens étroits du mariage. Crawford Bruce est ravi pour la nouvelle. Il en est sûr, cette lady va faire de son fils un grand homme. C'est donc lui qui prend en charge les dépenses des deux amants. Un tour dans les Cyclades et à Athènes, puis cap sur Constantinople, où Esther Stanhope arpente les souks à cheval, toujours en Amazone, un turban sur la tête. Dans un bateau à destination d'Alexandrie, son esprit vagabonde en imaginant ce qui l'attend derrière les vagues de la Méditerranée orientale. Soudain, le ciel s'assombrit. Une effroyable tempête oblige les aventuriers à monter dans un canot de sauvetage. Ils s'échouent sur un rocher près de l'île de Rhodes. Du naufrage, Esther ne sauve quasiment rien. Ses toilettes et ses bijoux sont au fond de la mer. Et alors, notre héroïne s'habillera en homme. En Égypte, le pacha Mehmet Ali, honoré de sa visite, l'accueille dans son harem. Allongée sur un sofa, à l'aise dans son sarouel, Lady Stanhope déguste un sorbet et boit du café. Si elle n'a pas encore appris à fumer le narguilé, elle se fond parfaitement dans le décor. À mesure qu'elle s'enfonce dans l'Orient fascinant, son look se métamorphose. À Jaffa, elle porte le costume mamelouk, chemise en satin à longues manches, veste rouge, pantalon bouffant brodé d'or. À Nazareth, Lady Stanhope rencontre un orientaliste suisse qui lui parle de Palmyre. C'est décidé, elle ira dans cette ancienne oasis des routes de la soie. Avant cela, à l'été 1812, elle passe un séjour chez l'émir Béchir, à la tête des Druzes, une secte musulmane. Il est impressionné par Esther, comme tous les pachas, sultans et émirs qui lui baisent les mains et lui offrent des présents. Elle se fait respecter alors même qu'elle ne respecte pas toutes leurs traditions. À Damas, elle défie la loi islamique en refusant de voiler son visage. La voyant galoper comme un homme, les bédouins s'inclinent sur son passage et l'appellent Meleki, la reine. Une légende se crée autour d'elle. On raconte que son cheval vaut des millions et qu'elle a sur elle un livre avec l'emplacement d'un fabuleux trésor. Escortée par 20 cavaliers et 39 chameaux chargés de provisions et de présents, Lady Stanhope entame sa traversée du désert de Syrie. Michael Bruce et Charles Marion, barbus et habillés en bédouins, sont méconnaissables. On dirait des chefs arabes. Après de chaudes journées et autant de nuits à camper sous les étoiles, les hautes colonnes de palmiers se dressent à l'horizon en mars 1813. Un cortège incroyable attend nos voyageurs. Au rythme des chants et tambours des poètes, de jeunes filles dansent dans des voiles transparents. Lady Stanhope est couronnée par un enfant. Une couronne de fleurs, mais une couronne quand même. « Mêlée qui ?» crie la foule. « J'ai été couronnée reine du désert sous l'arc de triomphe de Palmyre. Toute la Syrie chante mon courage et ma victoire, » écrit Esther avec fierté. Elle se sent comme Zénobie, qui, vous le savez, Mathieu, a régné sur Palmyre
au troisième
siècle de notre ère.
Bien sûr, je sais.
Le rêve se dissipe brutalement à l'arrivée d'une invitée surprise, la peste.
Ah.
C'est pas vous, hein, qui fait son grand retour en Orient.
C'est comme c'est mon nouveau surnom,
oui,
la peste.
La peste.
D'accord.
Lady Stanhope l'attrape, son médecin Marion aussi. Crawford Bruce, dont l'argent a été dilapidé par le couple, exige le retour de son fils. Michael rentre alors en Écosse. Esther, qui a su tenir tête aux chefs arabes du Moyen-Orient, défie la maladie, mais les séquelles nerveuses sont sévères. Lady Stanhope se retire d'abord à Mar Elias, au Liban, puis dans un ancien monastère à Joun, et se prend de passion pour la divination. Elle raconte pouvoir décrire une personne grâce à son signe astrologique. À Lamartine, je parle du poète, qui lui rend visite en 1832, elle prédit un brillant avenir. Au milieu de ses chats, de ses drogues, ses cartes et sa boule de cristal, l'ancienne reine du désert termine sa vie dans la misère. Elle dépense sans compter pour accueillir des centaines de réfugiés fuyant la guerre menée contre les Turcs par l'Égyptien Ibrahim Pacha. Criblée de dettes, elle n'en est pas moins riche de ses extraordinaires aventures. Lady Stanhope meurt à 63 ans en juin 1839, à plus de 4000 kilomètres de son Angleterre natale, après avoir mené sa vie comme elle l'entendait.
Europe 1, historiquement vôtre.